La doctrine secrète, deuxième partie. Évolution du symbolisme. Section 1. Le symbolisme et les idéographes. Citation. Un symbole n'est-il pas toujours, pour celui qui sait le déchiffrer, une révélation plus ou moins claire de ce qui est divin? À travers tout, quelque chose d'une idée divine brille d'un faible éclat. Bien plus encore, l'emblème le plus élevé sous lequel les hommes se soient rencontrés et embrassés, la croix elle-même, n'avait pas de signification si ce n'est extrinsèque et accidentelle. Carlyle. L'étude de la signification dissimulée sous toutes les légendes religieuses et profanes de n'importe quelle nation, grande ou petite, et principalement sous les traditions de l'Orient, a occupé la plus grande partie de la vie de celle qui écrit ces lignes. Elle est de ceux qui sont convaincus qu'aucun récit mythologique, aucun événement traditionnel du folklore d'un peuple n'a jamais été, à aucune époque, une pure fiction, mais que chacun de ces récits possède un fond historique réel. En cela, l'auteur est en désaccord avec ces symbolistes, quelque grande que soit leur réputation, qui ne trouvent, dans chaque mythe, qu'une preuve de plus de la tournure d'esprit superstitieux des anciens, et qui croient que toutes les mythologies tirent leur origine des mythes solaires sur lesquels elles sont basées. M. Gérald de Masset, le poète et l'égyptologue, dans une conférence sur la luniolatrie ancienne et moderne, a admirablement fait justice de ces penseurs superficiels. Sa critique mordante est un si fidèle écho des sentiments que nous avons ouvertement exprimés dès 1875 en écrivant « Isis dévoilée », qu'elle mérite d'être reproduite dans cette partie de notre ouvrage. Il y a 30 ans que le professeur Max Müller enseigne dans ses livres et dans ses conférences, dans le Times, le Saturday Review et diverses revues, du haut de l'estrade de l'institution royale, de la chaire de l'abbaye de Westminster et de sa chaire d'Oxford, que la mythologie est une maladie du langage et que le symbolisme ancien était le résultat d'une sorte d'aberration mentale primitive. Nous savons, dit Renouf, faisant écho à Max Müller dans ses conférences d'Ibert, nous savons que la mythologie est la maladie qui se développe à une étape particulière de la culture humaine. Telle est l'explication futile que donnent les non-évolutionnistes, et de pareilles explications sont encore acceptées par le public britannique qui fait confectionner sa pensée par procuration. Le professeur Max Müller, Cox, Gubernatis et d'autres promulgateurs du mythe solaire nous ont décrit le faiseur de mythes primitifs comme une sorte de métaphysicien germano-hindou, projetant sa propre ombre sur un brouillard mental et parlant ingénieusement de fumée, ou tout au moins de nuages, tandis que le ciel au-dessus de sa tête devenait comme la voûte du pays des rêves partout couverte par l'imagerie des cauchemars indigènes. Ils conçoivent l'homme primitif à leur ressemblance et le considèrent comme ayant une tendance perverse à se mystifier, ou comme a dit Fontenelle, comme sujet à voir des choses qui n'existent pas. Ils ont faussement représenté l'homme primitif ou archaïque comme ayant été stupidement conduit, dès le début, par une imagination active mais déréglée, à croire à toutes sortes d'idées fausses que son expérience quotidienne démentait directement et constamment. Comme un affolé d'imagination au milieu de ces vilaines réalités, dont le frottement faisait entrer en lui ses expériences, comme les montagnes de glace laissent leurs traces sur les rochers sous-marins. Il reste à dire, et on le reconnaîtra un jour, que ces instructeurs, maintenant acceptés, n'ont pas été plus près des origines de la mythologie et du langage que le poète Willis de Burns s'est approché de Pégase. Je réponds. Ce n'est que le rêve du théoricien métaphysique qui fait de la mythologie une maladie du langage ou de n'importe quoi, excepté de sa propre cervelle. L'origine et la signification de la mythologie ont été complètement perdues de vue par ces solariens et ces marchands de vent. La mythologie était un mode primitif d'objectiver la pensée ancienne. Elle était basée sur des faits naturels et elle est encore vérifiable dans les phénomènes. Il n'y a en elle rien d'insensé, rien d'irrationnel, lorsqu'on la considère à la lumière de l'évolution et lorsque son mode d'expression par le langage des signes est complètement compris. La folie consiste à la confondre avec l'histoire de l'humanité ou avec la révélation divine. Note. En ce qui concerne la révélation divine, nous sommes d'accord, Mais il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit de l'histoire humaine, car il y a de l'histoire dans la plupart des allégories et des mythes de l'Inde, et des événements, des faits réels s'y trouvent cachés. Fin de la note. La mythologie est le dépôt de la science humaine la plus ancienne. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est que, lorsqu'elle sera de nouveau interprétée correctement, elle portera le coup mortel à ces fausses théologies auxquelles elle a par mégarde donné naissance. Note. Lorsque les fausses théologies disparaîtront, on trouvera de véritables réalités préhistoriques, surtout dans les mythologies des Aryens et des anciens hindous, et même des Hellènes pré-homériques. Fin de la note. Dans la phraséologie moderne, on dit quelquefois qu'une donnée est mythique en proportion de sa fausseté, mais la mythologie ancienne n'était pas un système ou un procédé de falsification de ce genre. Ces fables étaient un moyen de présenter les faits, mais n'étaient ni des fourberies ni des fictions. Par exemple, lorsque les Égyptiens représentaient la lune par un chat, ils n'étaient pas assez ignorants pour supposer que la lune fût un chat, pas plus que leur fantaisie errante ne trouvait de ressemblance entre la lune et un chat. Le mythe du chat n'était pas non plus le simple développement d'une métaphore verbale, et ils n'avaient pas davantage l'intention de proposer des énigmes. Ils avaient remarqué ce fait bien simple que le chat y voyait dans l'obscurité et que ses yeux devenaient des ronds parfaits et luisaient davantage durant la nuit. La lune était la voyante de la nuit dans le ciel et le chat était son équivalent sur la terre. Aussi le chat domestique fut-il adopté comme représentant, comme emblème naturel et vivante reproduction du globe lunaire. Et il s'ensuivit que le soleil, qui regardait le monde d'en bas pendant la nuit, pouvait aussi être appelé le chat, comme cela eut effectivement lieu, parce que lui aussi voyait dans l'obscurité. Le nom du chat en égyptien est Mao, M-A-U, qui signifie « voyant » et qui dérive de Mao, « voir ». Un auteur traitant de la mythologie affirme que les Égyptiens imaginaient un grand chat derrière le soleil, qui était la prunelle de l'œil de ce chat. Mais cette façon d'imaginer est tout à fait moderne. Elle fait partie du fonds de commerce de Max Müller. La lune, en tant que chat, était l'œil du soleil parce qu'elle réfléchissait la lumière solaire et parce que l'œil réfléchit l'image dans son miroir. Sous forme de la déesse Pasht, le chat veille pour le soleil en écrasant de sa patte la tête du serpent des ténèbres, appelé son éternel ennemi. Voilà une exposition très exacte du mythe lunaire sous son aspect astronomique. La sélénographie, toutefois, est la division la moins ésotérique du symbolisme lunaire. Pour s'assimiler complètement la sélénognose, s'il est permis de forger un nouveau mot, il faut être passé maître dans bien plus que sa signification astronomique. La Lune est intimement liée à la Terre, comme c'est montré dans la stance 6, et se trouve plus directement en rapport avec tous les mystères de notre globe que ne l'est même Vénus Lucifer, la sœur occulte et l'alter ego de la Terre. Les infatigables recherches des symbolistes occidentaux, surtout des Allemands, pendant le dernier siècle et le siècle actuel, c'est-à-dire le 19e siècle, ont amené les étudiants les plus exempts de préjugés, et cela va sans dire tous les occultistes, à voir que sans l'aide du symbolisme, avec ses 7 départements dont les modernes ne savent rien, aucune écriture sainte ancienne ne peut être correctement comprise. Il faut que le symbolisme soit étudié sous chacun de ses aspects, car chaque nation avait ses modes spéciaux d'expression. En un mot, aucun papyrus égyptien, aucune holla, c'est-à-dire feuille de palmier indienne, aucune terre cuite assyrienne, aucun rouleau hébreu ne devrait être lu et interprété littéralement. Cela est maintenant connu de tous lettrés. Les savantes conférences de M. Gérald de Massey suffisent à elles seules pour convaincre tout chrétien à l'esprit ouvert que le fait d'accepter la lettre morte de la Bible équivaut à tomber dans une erreur et une superstition plus grossière que n'en a jamais produit le cerveau d'un sauvage des îles des mers du Sud. Mais le fait en présence duquel les orientalistes, même ceux qui aiment et recherchent le plus la vérité, qu'ils soient arianistes ou égyptologues, paraissent rester aveugles, et que chaque symbole trouvé dans un papyrus ou dans une holla est un diamant à facettes multiples, et que chacune de celles-ci, non seulement comporte diverses interprétations, mais se rattache à diverses sciences. Nous en voyons un exemple dans l'interprétation que nous venons de citer du chat symbolisant la lune, exemple d'une image sidéro-terrestre car la Lune a chez les autres nations de nombreuses significations outre celle-ci. Comme l'a démontré un érudit maçon et théosophe, feu Kenneth Mackenzie, dans sa Royal Masonic Cyclopédia, il y a une grande différence entre l'emblème et le symbole. Le premier comprend une plus grande série de pensées que ne le fait un symbole, que l'on peut plutôt considérer comme servant à éclaircir une idée spéciale unique. D'où il résulte que les symboles, lunaires ou solaires par exemple, de plusieurs pays, éclaircissant chacun une de ses idées spéciales ou une série d'idées, forment collectivement un emblème ésotérique. Ce dernier est un tableau, signe visible et concret, représentant des principes, ou une série de principes, reconnaissables par ceux qui ont reçu certaines instructions, entre parenthèses les initiés. Pour parler plus clairement encore, un emblème est ordinairement composé d'une série de tableaux graphiques, considérés et expliqués allégoriquement, et qui développent une idée en vue panoramique, l'une après l'autre. Ainsi, les Puranas sont des emblèmes écrits. Il en est de même des testaments mosaïques et chrétiens, ou de la Bible et de toutes les autres écritures saintes exotériques. Comme le montre la même autorité, toutes les sociétés ésotériques, comme la société pythagoricienne, l'Eleusinia, les confréries hermétiques de l'Égypte, les Rose-Croix et les francs-maçons, se sont servis d'emblèmes et de symboles. Beaucoup de ces emblèmes ne doivent pas être mis sous les yeux de tout le monde et une différence très petite peut modifier grandement la signification de l'emblème ou du symbole. Les sceaux magiques, fondés sur certains principes des nombres, sont dans ce cas, et, si monstrueux et ridicules qu'ils soient aux yeux des ignorants, ils transmettent tout un corps de doctrine à ceux qui ont appris à les reconnaître. Les sociétés énumérées ci-dessus sont toutes comparativement modernes, aucune ne remontant plus loin que le Moyen-Âge. Aussi est-il encore bien plus normal que les étudiants des plus anciennes écoles archaïques aient soin de ne pas divulguer des secrets beaucoup plus importants pour l'humanité, entre parenthèses comme étant dangereux dans des mains ignorantes, fermez la parenthèse, que les soi-disant secrets maçonniques, qui sont maintenant devenus, comme disent les Français, des secrets de Polichinelle. Mais cette restriction ne peut s'appliquer qu'à la signification psychologique, ou plutôt psychophysiologique et cosmique d'un symbole et d'un emblème, et encore partiellement, même à cet égard. Car bien qu'un adepte soit forcé de refuser de communiquer les conditions et les moyens qui conduisent aux corrélations des éléments, psychiques ou physiques, qui peuvent produire des résultats nuisibles, aussi bien que bénéfiques, il est cependant toujours prêt à communiquer à l'étudiant sérieux le secret de la pensée antique, dans tout ce qui concerne l'histoire cachée sous le symbolisme mythologique, et a donné ainsi quelques repères de plus pour une vue rétrospective du passé, dans la mesure où cela fournit d'utiles informations sur l'origine de l'homme, l'évolution des races et la géognose. Et pourtant la plainte larmoyante de nos jours, non seulement parmi les théosophes mais aussi parmi les quelques profanes que la question intéresse, c'est « Pourquoi les adeptes ne révèlent-ils pas ce qu'ils savent ?» À cela, on pourrait répondre « Pourquoi le ferait-il ?» Sachant d'avance qu'aucun homme de science ne l'accepterait, même comme hypothèse et encore moins comme théorie ou axiome. Avez-vous seulement accepté l'ABC de la philosophie occulte contenue dans le théosophiste, le bouddhisme ésotérique et dans d'autres ouvrages et périodiques, où y avez-vous cru ? Le peu qui a été donné n'a-t-il pas été raillé, tourné en ridicule et confronté d'un côté avec les théories animales et simiesques de Huxley et de Haeckel, et de l'autre côté avec la côte d'Adam et la pomme? En dépit de cette perspective peu désirable, une masse de faits est donnée dans cet ouvrage, et l'auteur y traite, aussi complètement qu'il lui est possible de le faire, de l'origine de l'homme, de l'évolution du globe et des races humaines et animales. Les preuves offertes pour corroborer les anciens enseignements, sont disséminés dans toute l'étendue des écritures des civilisations antiques. Les Puranas, le Zen d'Avesta et les anciens classiques sont remplis de faits de ce genre, mais personne ne s'est jamais donné la peine de les rassembler et de les comparer. La raison en est que tous les événements de ce genre étaient racontés symboliquement et que les plus savants et les plus perspicaces de nos arianistes et égyptologues ont été trop souvent arrêtés par quelque idée préconçue, et plus souvent encore par une vision partielle de la signification secrète. Une parabole, cependant, est elle-même un symbole parlé. Une fiction ou une fable, disent les uns, une représentation allégorique, disons-nous, des réalités de la vie, des événements et des faits. Et, de même que l'on tirait toujours une morale d'une parabole, morale qui était effective, un fait réel de la vie humaine, de même, un événement réel et historique était déduit par les personnes versées dans les sciences hiératiques, d'emblèmes et de symboles conservés dans les antiques archives des temples. L'histoire religieuse et ésotérique de chaque nation était enfouie dans les symboles. Elle n'était jamais littéralement exprimée par des mots. Toutes les pensées et les émotions, toute la connaissance et le savoir, révélés et acquis par les premières races, trouvèrent leur expression imagée dans l'allégorie et la parabole. Pourquoi ? Parce que la parole articulée possède un pouvoir, non seulement inconnu et même insoupçonné des sages modernes, qui naturellement n'y croient pas, parce que le son et le rythme sont étroitement liés aux quatre éléments des anciens, et que telle ou telle vibration dans l'air doit inévitablement éveiller les pouvoirs correspondants, avec lesquels leur union produit, selon le cas, de bons ou de mauvais résultats. Aucun étudiant n'avait jamais la permission de réciter les événements historiques, religieux ou réels d'aucun genre, en termes ne se prêtant à l'erreur d'interprétation, de peur que les pouvoirs en rapport avec l'événement ne soient attirés de nouveau. De tels événements n'étaient racontés que pendant l'initiation, et chaque étudiant devait les enregistrer en symboles correspondants tirés de son propre mental et contrôlés plus tard par son maître avant d'être définitivement acceptés. C'est ainsi que l'alphabet chinois fut créé peu à peu, comme, immédiatement auparavant, venaient d'être fixés les symboles hiératiques de l'ancienne Égypte. Dans la langue chinoise, dont les caractères peuvent être lus dans n'importe quelle langue, et sont ainsi que nous venons de le dire à peine moins anciens que l'alphabet égyptien de Thoth, chaque mot est représenté par un symbole graphique. Note. De sorte qu'un japonais, ne comprenant pas un seul mot de chinois et se trouvant avec un chinois n'ayant jamais entendu parler la langue japonaise, converserait avec lui par écrit et il se comprendrait parfaitement, parce que leur manière d'écrire est symbolique. Cette langue possède bien des milliers de lettres symboles ou logogrammes, donnant chacun la signification d'un mot entier, car de véritables lettres ou un alphabet, dans le sens que nous donnons à ce mot, n'existe pas dans la langue chinoise, pas plus qu'il n'existait dans celle de l'Égypte jusqu'à une période bien plus tardive. Nous essayons maintenant d'expliquer les principaux symboles et emblèmes parce que les troisième et quatrième volumes qui traitent de l'anthropogénèse seraient très difficiles à comprendre sans une connaissance préparatoire au moins des symboles métaphysiques. Il ne serait pas juste non plus de commencer l'explication ésotérique du symbolisme sans payer la dette d'honneur contractée envers celui qui a rendu le plus grand service à ses études durant ce siècle, en découvrant la clé maîtresse de l'antique symbologie hébraïque, intimement liée à la métrologie, l'une des clés de la langue des mystères autrefois universelle. Nous remercions M. Ralston Skinner de Cincinnati, auteur de The Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures. Mystique et kabbaliste par nature, il a travaillé pendant nombre d'années dans ce sens et ses efforts ont été certainement couronnés d'un grand succès. Voici ce qu'il dit. L'auteur est convaincu qu'il existait une langue antique, qui dans les temps modernes et jusqu'à présent paraît avoir été perdue, mais dont il reste de nombreux vestiges. L'auteur a découvert que cette proportion géométrique, entre parenthèses le rapport intégral du diamètre à la circonférence d'un cercle, constituait l'origine très ancienne et probablement divine des mesures linéaires. Il paraît à peu près établi que le même mystère de géométrie, de nombre, de proportions et de mesures était connu et employé sur le continent nord-américain, même avant que la postérité sémite n'en eût connaissance. La particularité de ce langage était qu'il pouvait être contenu dans un autre et caché de façon à ne pouvoir être soupçonné sans l'aide d'un enseignement spécial. Les lettres et les signes syllabiques possédaient à la fois les pouvoirs aux significations des nombres, des formes géométriques, des tableaux ou des idéogrammes et des symboles, dont la portée voulue était de façon déterminante secondée par des paraboles, sous forme de récits complets ou partiels, mais pouvaient aussi être exposés séparément, indépendamment et de diverses manières, par des tableaux, par des ouvrages de maçonnerie ou par des constructions en terre. Dissipons ce que peut avoir d'ambigu le mot « langage ». Tout d'abord, ce mot signifie l'expression des idées par la parole humaine, mais il peut aussi signifier l'expression des idées par un autre moyen. Cette ancienne langue est composée dans le texte hébreu, de manière à ce qu'en employant les caractères écrits qui, une fois articulés, constituent la langue dont la définition a été donnée en premier lieu, une série d'idées, absolument différente de celle qui fait naître la lecture des signes phonétiques, puisse être intentionnellement provoquée. Ce langage secondaire provoquait, d'une façon voilée, des séries d'idées, des copies imaginaires de choses sensibles pouvant être mises en tableau et de choses pouvant être classées comme réelles sans être sensibles. Comme par exemple le nombre 9 peut être pris comme une réalité, bien que n'ayant pas d'existence sensible. De même qu'une révolution de la Lune, considérée indépendamment de la Lune elle-même, par qui cette révolution a été effectuée, peut être prise comme l'origine ou la cause d'une idée réelle, bien qu'une telle révolution n'ait aucune substance. Cette langue idée peut consister en symboles restreints à des termes et à des signes arbitraires ayant une portée très limitée d'idées et complètement sans valeur, ou elle peut servir à déchiffrer la nature dans quelques-unes de ses manifestations, d'une valeur presque incommensurable pour la civilisation humaine. L'image d'une chose naturelle peut donner naissance à des idées portant sur des sujets du même ordre et rayonnant dans des sens différents et même opposés, comme les rayons d'une roue, et produisant des réalités naturelles dans des genres qui diffèrent beaucoup de la tendance apparente donnée par l'examen du premier tableau ou tableau d'origine. Une notion peut donner naissance à une notion connexe. Mais s'il en est ainsi, quelque incongru que cela puisse paraître, toutes les idées qui en résultent doivent découler de l'image originelle et avoir entre elles des liens ou des rapports harmoniques. Ainsi, d'une idée suffisamment fondamentale que l'on s'est formée, on peut tirer la conception du cosmos lui-même et jusqu'à celle de tous les détails de sa construction. Un tel emploi du langage ordinaire est aujourd'hui tombé en désuétude, mais l'auteur ne se demande si, à un moment donné, dans des temps très reculés, ce langage ou un autre analogue n'était pas celui universellement adopté, tout en admettant qu'il devint l'apanage d'une secte ou d'une caste choisie, au fur et à mesure qu'il revêtit des formes de plus en plus voilées. J'entends par là que la langue populaire ou vernaculaire fut elle-même employée à son origine comme le véhicule de ce mode particulier de communication des idées. Il existe à ce sujet des preuves très sérieuses et il semble vraiment qu'il y ait eu dans l'histoire de la race humaine, par suite de causes qui nous échappent, au moins quant à présent, une altération ou même la perte d'une langue originelle parfaite, ainsi que d'un système scientifique parfait. Dirons-nous qu'ils étaient parfaits à cause de leur origine et de leur importation divine. Origine divine ne signifie pas ici une révélation faite par un dieu anthropomorphe sur une montagne, au milieu du tonnerre et des éclairs, mais selon nous, une langue et un système scientifique donnés aux premières races humaines par une humanité plus avancée et qui était assez haute pour paraître divine aux yeux de cette humanité naissante, en un mot, par une humanité provenant d'autres sphères. Cette idée ne renferme en elle-même rien de surnaturel. Mais son acceptation ou son rejet dépend du degré de vanité et d'arrogance de celui à qui elle est présentée. Car si les professeurs du savoir moderne consentaient à avouer que, bien qu'ils ne sachent rien, ou plutôt ne veulent rien savoir, de l'avenir de l'homme désincarné, cet avenir peut cependant être pour eux gros de surprises et de révélations inattendues, lorsque leurs égos seront libérés de leur corps matériel. L'incrédulité matérialiste aurait alors moins de succès qu'elle n'en a maintenant. Quel est celui parmi eux qui sache ou puisse dire ce qui arrivera lorsque le cycle de vie de ce globe sera terminé et que notre mère la Terre tombera elle-même dans son dernier sommeil? Qui est assez hardi pour prétendre que les égaux divins de notre race humaine, au moins les élus parmi la multitude de ceux qui passeront sur d'autres sphères, ne deviendront pas à leur tour les divins instructeurs d'une nouvelle humanité, générés par eux sur un nouveau globe et appelés à la vie et à l'activité par les principes désincarnés de notre Terre? Tout cela peut avoir fait partie de l'expérience du passé, et ces annales étranges se trouvent enfouies dans la langue de mystère des âges préhistoriques. Cette langue que l'on appelle maintenant le symbolisme.